pour votre mot d'accueil et votre accueil chaleureux. C'est toujours un plaisir pour moi de venir parmi vous. C'est la deuxième fois que je viens. Je suis venu, je ne sais plus, il y a 7 ou 8 fois. Et puis, 8 ans. Et puis, mon voisin de droite, que je connais depuis quelques temps, m'a recontacté, m'a dit, vous ne voudriez pas revenir de nouveau, nous faire quelque chose. Et comme vous savez, on ne peut pas refuser ces sollicitations. Il me fait tellement de gentillesse que c'est toujours un plaisir de répondre. Alors, je vais vous parler d'une période qui est importante dans l'histoire d'Alsace, qui a beaucoup marqué les générations passées, qui a duré un demi-siècle, qui est celle du Reichsland. Donc c'est l'époque qui va du lendemain de la guerre de 1870, où l'Alsace, par un traité international, devient allemande, jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, 1918, où un nouveau traité international, le traité de Versailles cette fois, fait retourner l'Alsace-Lorraine à la France. Donc une période intermédiaire entre deux guerres où l'Alsace est un État à part dans cet empire allemand qui vient de se constituer. Il s'est constitué en janvier 1871. La proclamation s'est faite dans la Galerie des Glaces à Versailles. Et l'Alsace vit sous ce qu'on appelle le régime de l'annexion. C'est-à-dire qu'elle est annexée, parce qu'on ne peut pas employer le mot d'Anschluss, ce sera un terme qu'on emploiera plus tard, elle est annexée, elle fait partie donc de ce vaste empire, elle fait partie de ces 25 États, de ces États fédérés, de l'empire allemand, du Reich allemand. Mais elle a dans ce Reich un statut tout à fait particulier, dans la mesure où on dit qu'elle est propriété commune des 24 autres États. Elle n'est pas administrée de la même façon, elle n'a pas, par exemple, elle n'a pas de constitution. Elle est directement gouvernée par Berlin, par le cabinet impérial et par le chancelier, qui est à la fois chancelier de l'Empire et chancelier du Royaume de Prusse. Il faudra attendre très longtemps. Ça va être une des grandes revendications des Alsaciens. Il faudra attendre 1911 pour que, enfin, l'Alsace soit dotée d'un statut, ce qu'on appellera le statut d'autonomie, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, puisqu'on a fêté, au mois de mai dernier, le 100e anniversaire donc de ce statut. Vous avez dans les dernières nouvelles d'aujourd'hui, d'ailleurs, le rappel d'un colloque qui a eu lieu à la maison de la région sur ce statut. Ce colloque va être publié. Alors, durant cette période du Reichsland, qui dure presque 50 ans, il y a un phénomène qui est extrêmement important, c'est presque le phénomène majeur du Reichsland, c'est l'immigration continue d'Allemands venus de l'autre côté du Rhin, qu'on appelle alors les Altdeutsche, les vieux Allemands, hein, par opposition aux nouveaux Allemands que sont les Alsaciens, qui ne deviennent Alsaciens que par le traité d'annexion, par la loi d'annexion, qui date de juin 1871. Donc, un mouvement très puissant, hein, de immigration qui va générer pour la société alsacienne une de constantes évolutions. Hein, il faut vous imaginer la société de ce temps, non pas comme une société statique, mais une société en constante évolution où les juifs Altdeutsche, donc les juifs venus de l'autre côté du Rhin, jouent un rôle considérable. Leur présence en Alsace, et surtout dans les trois grandes villes du Reichsland, Strasbourg, Mulhouse et Metz, souligne l'importance de l'immigration de ces vieux Allemands en Alsace. Une immigration continue, puisqu'elle se fera par vagues successives, mais se poursuivra jusqu'en 1914. Une immigration considérable par son nombre, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, et une immigration qui aura des conséquences essentielles sur la vie de la société, en particulier sur la vie de la société à Strasbourg. Or, parmi ces immigrés, parmi ces nouveaux arrivants, les Juifs représentent un nombre non négligeable.
Sur le support.
Vous avez vraiment un certain nombre de questions. La première d'abord, pourquoi viennent-ils? Et pourquoi sont-ils attirés par l'Alsace, et en particulier par Strasbourg, car je parlerai essentiellement de Strasbourg. Deuxième question, comment sont-ils accueillis? Comment sont-ils accueillis d'abord par l'élément alsacien, mais comment sont-ils également accueillis par les juifs, les anciens juifs français? Au départ, les rapports n'iront pas de soi. Il y aura des tensions. À quel milieu, à quelle classe sociale appartiennent-ils? Nous verrons tout à l'heure que ça couvre l'ensemble du panel de la société. Et enfin, et ce sera ma dernière partie, comment s'intègre-t-il dans la société alsacienne? Donc, je vais commencer par vous donner un certain nombre d'indications de départ pour vous montrer leur importance numérique et puis leur origine, également leur origine géographique. Je vous disais tout à l'heure, je vous rappelais, l'importance de cette immigration des Alsaces à Strasbourg qui arrive en Alsace, mais plus particulièrement à Strasbourg, dès la fin de l'année 70. Alors pourquoi viennent-ils? Eh bien, il y a une propagande allemande, qui est d'ailleurs très bien faite, hein, qui est faite par le gouvernement, qui incite les Allemands à quitter leur terre d'origine et à venir s'installer en Alsace. Et là, en Alsace, c'est présenté dans cette propagande, par affiche, par livret, par petit fascicule, comme un Eldorado. Une terre très riche, une terre d'avenir, une terre surtout, il y a des carrières à faire hein, pour les fonctionnaires, par exemple, pour les universitaires en particulier. Il y a une carrière à faire également du fait que un certain nombre d'Alsaciens, pas mal d'ailleurs, pour échapper au régime du Reichsland, pour ne pas devenir allemands, ont opté, comme on disait, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de ne pas rester en Alsace, où ils auraient eu automatiquement la nationalité allemande à partir d'octobre 1872, d'opter donc et de partir. Donc il y a un départ, il y a un vide, il y a donc un vide à remplacer. Et puis, la politique allemande va développer une politique économique, une politique d'urbanisme extrêmement active, qui va demander non seulement de la main-d'œuvre, mais également des concepteurs, hein, des concepteurs de la ville, par exemple de Strasbourg, des architectes, des maîtres d'œuvre, qui vont complètement changer la physionomie de la ville. Alors, cette immigration, elle a un double caractère, puisque c'est à la fois une immigration de proximité, donc ce sont des Allemands qui viennent des États voisins, Pays-Bas, de Palatinat, Württemberg, les États rhénans en général, mais également il y a une autre partie qui vient des parties beaucoup plus lointaines, des confins de l'Empire, de la Prusse, des provinces les plus orientales de la Prusse orientale, la Silésie, et de Berlin. Alors combien sont-ils au total? Les Allemands nous ont laissé des recensements extrêmement bien faits. Le service des statistiques est dirigé par un homme tout à fait remarquable, un docteur en droit, le docteur Eichelmann. Il fait procéder tous les 5 ans, à partir de 1871, à des recensements très précis. Donc on en a le premier et de 71, le dernier date de 1910. Et on met en chiffres, en tableaux, en statistiques, tout ce qui peut être comptabilisé, aussi bien au niveau des humains qu'au niveau du patrimoine. niveau de la richesse agricole, au niveau du bétail, etc. Et l'étude de ces tableaux statistiques, de ces statistiques Jahrbücher, qui paraissaient tous les 5 ans, constitue naturellement une mine d'or pour l'historien. Car ils nous apprennent, je prends l'année 1905, ils nous apprennent que nous avons à cette époque-là, en 1905, 40 000 arrivants, donc Alsace en Haute-Alsace, et 90 000 en Basse-Alsace. Ils sont essentiellement concentrés dans les villes. 2 à 3 % seulement dans les districts ruraux. Par exemple, Strasbourg en concentre à peu près 35%. Strasbourg devient effectivement le point de fixation principal de l'immigration allemande en Alsace. Entre 1871 et 1914, près d'un immigré sur deux s'installe à Strasbourg. Alors, est-ce que cette immigration des Juifs, est-ce que l'immigration des Juifs est différente de l'immigration générale? Oui et non. L'immigration juive ne diffère guère de l'immigration des Alsaciens en général. Elle suit les grandes lignes du mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un gros mouvement d'arrivage à partir de 71 qui atteint son apogée entre 75 et 85. Il y a un creux entre 85 et 95, et puis il y a une reprise de nouveau à la fin de la période du Reichstag entre 95 et 1910. Et à nouveau un creux entre 1910 et 14, bien entendu, durant la Première Guerre mondiale, le mouvement cesse. Alors il faut savoir que cette immigration, c'est pas seulement l'Alsace qui en est le pays destinataire, mais c'est un mouvement général qui est lié à des conditions économiques. C'est un mouvement général qui part du parti les plus extrêmes, les plus lointaines, les plus à l'est de l'Empire allemand, vers ces parties occidentales. Il part des parties les plus pauvres, des régions agricoles, des régions qui ne sont pas encore industrialisées, vers les régions qui sont en voie d'industrialisation, celles de la Rhénanie, celles de la Ruhr et également donc celles de l'Alsace. Ça c'est pour les points communs. Il y a quand même des différences dans cette immigration des Juifs. Et j'ai noté trois différences. La première, c'est que si on la prend en nombre, l'immigration des Juifs est proportionnellement plus importante que l'immigration générale. Et alors, il faut admettre que la mobilité géographique est un facteur remarquable de l'histoire des Juifs allemands du XIXe siècle. Il y a une très très grande mobilité à l'intérieur de l'Empire, mais également des Juifs qui quittent l'Empire allemand pour aller aux États-Unis ou vers d'autres destinées. Donc une très grande mobilité de l'élément juif au sein du Reich. Elle diffère également un petit peu suivant le rythme, elle n'épouse pas tout à fait le rythme que je vous décrivais tout à l'heure. Et enfin, le troisième caractère, c'est le plus original, c'est que, en général, les immigrants qui arrivent sont pour les deux tiers des hommes, et des hommes célibataires. Donc ils vont venir en Alsace et ils vont faire souche, ils vont prendre une épouse en Alsace. Or, l'immigration des Juifs se fait en famille. C'est extrêmement intéressant. C'est une immigration qui est faite en famille, alors que l'immigration des non-Juifs, c'est celle de jeunes hommes célibataires, donc, qui viennent en Alsace dans l'espoir de trouver une compagne, ce qui n'est pas toujours facile, parce que trouver une compagne dans une terre conquise, dans une terre annexée, leur posera au départ de très gros problèmes. Alors combien sont-ils? Là aussi, je vais recourir à mes recensements que j'ai étudiés dans le détail. Les Allemands font des recensements par origine nationale, donc les gens qui viennent de Prusse, les gens qui viennent de Silésie, les gens qui viennent de Saxe, ceux qui sont originaires du Palatin, du Bade, du pays de Bade, du royaume de Württemberg, du royaume de Bavière, ils ont fait deux recensements à base religieuse. Donc on a catalogué les gens par état et par religion. Puis j'ai trouvé également les recensements, c'est ceux qui sont les plus précis, concernant Strasbourg, à qui je les appellerai, quand même plus particulièrement. En 1900, les Juifs, la totalité, hein, les Juifs, les statistiques, naturellement, ne mettent pas à part les Juifs allemands, les Juifs alsaciens. Le recensement de 1902 nous donne 32 000 Juifs pour l'Alsace Lorraine. Les deux tiers sont en Alsace, on peut dire, donc il y en a 23, 24 000 à peu près en Alsace. Comment les choses se passent-elles à Strasbourg? À Strasbourg, la population juive passe, on a des chiffres précis, de 3088 en 71, point de départ du Reichsland, à 5780 pour le recensement final, donc de 1910. On passe de 3100, on arrondit, à 5800, soit une projection de 87%. La valeur relative, elle oscille entre 3,3 et 4%. L'élément juif à Strasbourg, il est entre 3,3 et 4%. À Mulhouse, la population augmente également, mais dans des proportions moindres. Le nombre de juifs passe de 2000 en 1997 à 2287, une augmentation de 14%. Et la troisième ville, plutôt la deuxième ville du Reichsland, Metz, là la communauté juive est moins importante, 1500 au départ, 1911 à l'arrivée, donc plus 28%. Donc la chose principale à retenir, c'est que 36% de la population juive du Bas-Rhin, donc un gros tiers, est sur Strasbourg. Et on estime, mais là c'est uniquement une estimation parce que la finesse des recensements ne va pas jusqu'à distinguer les juifs alsaciens des juifs allemands, mais l'estimation que j'ai trouvée dans deux sources différentes, l'estimation elle dit que sur ces 3100 ou 4500 juifs à Strasbourg, la moitié sont des Alsaciens, la moitié donc sont d'origine allemande. D'où viennent-ils? Eh bien, leur origine est à peu près semblable que celle des autres immigrants allemands. Les Neuwanderer, donc les immigrants de proximité, ce que j'appelle ceux qui viennent des États rhénans, représentent exactement les deux tiers. Il y en a 20% qui viennent des États de l'Est, 20% du pays de Bade, 18% du Palatinat et 10% du Württemberg. Donc 66% sont des immigrants de proximité, des États rhénans, donc qui sont des États voisins. On parle à peu près des mêmes dialectes. On a à peu près, disons, un même mode de vie qu'en Alsace. Les autres, les immigrants du lointain, hein, ceux qui viennent des provinces prussiennes de l'Est, ceux qui viennent de Silésie, de Posnanie, il y en a pas mal d'ailleurs aussi, on le verra tout à l'heure pour les universitaires, qui viennent de Berlin, représentent un tiers. Donc 66% de Neuwanderer, donc d'immigrants de proximité, et un tiers de Fernwanderer, donc de gens qui viennent des extrémités de l'Empire. À quel milieu, à quelle catégorie socio-professionnelle appartiennent-ils? Alors là aussi, précision des recensements allemands, on a des recensements par, il y en a qu'un qui est fait en 1890, on a un recensement par catégorie socio-professionnelle, il y a une trentaine de catégories, et par religion. Et dans les catégories socio-professionnelles, on distingue les patrons, ceux qui sont chefs de leur entreprise, les cadres et les employés. Donc c'est quelque chose c'est un recensement qui est vraiment très affiné. Je ne vous apprendrai rien qu'ils ne sont pas du tout représentés dans le monde de l'agriculture. Par contre, là où on les trouve bien représentés, c'est dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce dans le domaine des assurances et naturellement dans le domaine intellectuel. Alors dans le domaine industriel, grosse présence juive dans l'industrie chimique. 9 chefs d'entreprise signalés. Dans le domaine du textile, les chefs d'entreprise dans le domaine du textile représentent 12% des chefs d'entreprise. Présence également assez forte dans l'industrie alimentaire, dans les arts polygraphiques. Alors, deux domaines, naturellement, on va les trouver en nombre, c'est le commerce, 562 petits patrons ou chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ou commerçants juifs, les patrons, je ne compte pas ceux qui les commis ou les employés, c'est 20%. 20% du commerce est entre les mains des juifs. Également un secteur où ils sont très bien représentés, c'est les assurances. C'est l'époque du Reichstag, où les grands groupes d'assurance, la compagnie Rhein-Moselle par exemple, se constituent. Il y a 12 chefs d'entreprise, 12 juifs, qui créent leur propre compagnie d'assurance en Alsace-Moselle. Donc, vous voyez, des gens qui sont présents, surtout dans les industries innovantes, les machines, la polygraphie, la chimie, le cuivre. Présents également, forte présence dans la fonction publique, forte présence également dans l'enseignement, très peu dans l'enseignement primaire et secondaire, par contre, très très forte présence dans l'enseignement supérieur. Alors, après avoir fermé un petit peu leur importance et tenté de voir dans quel domaine ils se sont installés, nous allons maintenant suivre, ça va être ma deuxième partie et ce sera la plus longue parce que je vais vous développer un certain nombre d'exemples. Je vais vous montrer dans